Jean-Jacques Friedman, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes le directeur des investissements de Vega IM. On va parler avec vous de stratégie d'investissement dans cette période un petit peu compliquée pour les investisseurs. Un petit mot rapide pour commenter, je dirais, ces dernières semaines. Si on devait dire quelque chose, c'est quoi? C'est plus de volatilité, clairement?
Ah oui, risk on, risk off. C'est vraiment ça. C'est à la fois le scénario qu'on a fait. Ça a été peut-être plus rapide que ce qu'on attendait. Depuis septembre, on voyait un tournant vraiment. Jusqu'à présent, c'est une tendance haussière très clairement établi, au moins on savait que la tendance haussière était au moins contestée. Ensuite, ça a été peut-être un peu plus violent et plus rapide. Donc, des alternances et de la volatilité, ça oui.
Alors, pour les investisseurs, il y a deux manières de voir les choses. Il y en a qui ont regardé effectivement ces marchés pétroliers continuer descendre en termes de prix et commencer à s'inquiéter sur un ralentissement finalement de l'économie mondiale. Est-ce que ça a joué aussi comme facteur déclenchant ou est-ce que c'est plus la Chine? Qu'est-ce qui finalement a amené cette inquiétude?
Alors, on y reviendra peut-être. Pour moi, c'est pas vraiment la Chine. C'est-à-dire que la Chine, c'est évidemment important, mais c'est acté, c'est une officialisation. C'est-à-dire que demain, si vous étiez un exportateur européen, vous exportez toujours la même chose aujourd'hui, que vous sachiez que la Chine fasse 7% de croissance ou fasse 3-4 comme on le dit maintenant. Je crois même que sur la Chine, on aurait plutôt des petits éléments de réconfort. C'est-à-dire qu'il y a eu la période d'officialisation, il y a 3-4 de croissance en Chine, il y a peut-être même 1% de plus cette année, il y a un peu plus d'industrialisation, la transition vers les services se fait. Et puis ce qui se passe sur la Chine, l'écroulement boursier, ça n'a rien à voir en fait avec la santé économique chinoise. Donc ça, c'est déjà un point. Après, sur le pétrole, c'est pas un baromètre finalement de la nature de l'économie, mais c'est dangereux, c'est comme un médicament. Quand on le prend, au début, c'était une bonne nouvelle, jusqu'à peut-être $50. Au-delà, ça peut mettre en risque, en péril, ça peut mettre en péril les investissements des monarchies pétrolières, ça peut mettre en péril des faillites de banques qui ont prêté à des foreurs aux États-Unis. Donc c'est vraiment cette démarche-là. Donc c'est plus un risque à un moment donné que le baromètre en fait de la croissance, je pense.
Alors on pourrait dire que tout cela s'est passé après la décision de la Réserve fédérale américaine de commencer à monter ses taux. Et on voit d'ores et déjà des sujets sur est-ce qu'il va y avoir une prochaine hausse de taux en mars. Certains disent finalement c'est pas si évident que ça, compte tenu du nouveau contexte. On a l'impression qu'entre novembre, décembre et aujourd'hui, pourtant, il n'y a pas
vraiment... En un mois et demi, il n'y a pas. Oui, mais je pense que le problème central, le vrai problème, c'est la montée des taux de la Fed et c'est le fait que les gens se rendent compte que la normalisation qu'on espérait à un moment donné, elle n'est presque plus possible. Et c'est ça le schéma qu'on va devoir traverser qui va faire de la volatilité. C'est-à-dire que les marchés ne remettaient pas en cause que les taux devaient baisser fortement à la suite de la crise de 2009. Mais il se disait, à un moment donné, on reviendrait à la normale avec des taux qui seraient susceptibles de remonter, etc. Je pense que ce qu'on a appris l'année dernière, au milieu de l'année dernière, c'est que cette phase de normalisation, elle n'est plus en réalité totalement possible. Ça veut dire qu'en fait, quel que soit le mot qu'on lui donne, c'est stagnation séculaire si on parle croissance ou environnement durable de taux bas, c'est vrai qu'on voit bien qu'au moment où le cycle de croissance américain calera, et il calera un jour ou l'autre, eh bien on sera parvenu à une situation comme on connaissait avant avec des taux qui remontent à 5 et 6. Et c'est ça qu'on doit apprendre à surmonter qui créera la vol au cours des prochaines semaines. Plus je pense que les problèmes chinois, et éventuellement plus que l'OPEP, où on ne sait jamais, il peut y avoir une décision au niveau de l'OPEP qui rejaillit sur le prix du pétrole plus globalement. C'est le point central, tout à fait.
Oui, on commence à avoir quelques signaux du côté de l'OPEP, notamment de l'Arabie Saoudite, disant en gros, la fin de la partie, c'est un peu cette année.
Tout le monde est perdant, c'est suicidaire, c'est collectivement suicidaire. Alors j'ai entendu que la Russie, qui pourtant est un des gros perdants, mettait un petit peu, freiné un petit peu, mais à un moment donné, il peut y avoir peut-être cette résolution possible.
Quand on voit, vous avez entendu comme moi, des George Soros dire, oula, on se retrouve comme dans 2008, on a eu aussi ces annonces, d'autres dire, finalement, on va retomber en récession aux États-Unis en 2016. C'est pareil, si on se remet 3-4 mois en arrière, on n'avait pas du tout ce scénario-là. Comment on peut basculer de là, vraiment, d'un côté à l'autre?
Oui. Je crois pas qu'on... Alors, heureusement, je crois qu'on retombera pas justement en récession aux États-Unis. Ce qui est un point important, parce que là, ça aurait été dangereux, parce qu'il n'y avait plus d'armes. Il n'y a plus d'armes budgétaires, le déficit, il est à 90%. Il n'y a plus d'armes monétaires, les taux sont à 25 centimes, ils ont tout essayé. Je crois qu'on tombera pas, parce qu'en gros, il y a trois quarts, c'est sur la consommation. Et là, il y a du pouvoir d'achat des ménages, il y a une baisse de l'inflation, il y a une baisse du pétrole, et puis il y a quand même un chômage qui continue à s'améliorer. La surprise, c'est qu'avec un taux de chômage de 5, il y a encore près de 300 000 créations d'emplois. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui avaient abandonné le marché du travail et qui se remettent et qui potentiellement arrivent encore. Donc, il y a un soutien de ce côté-là. L'industrie, c'est pas extraordinaire. ça fait un petit 15% et l'industrie souffre un peu de la baisse finalement de l'euro face au dollar. Et de l'autre côté, il y a ces 7-8% d'extraction pétrolière qui, eux, sont peut-être à moins 30. Mais l'un dans l'autre, c'est-à-dire que le risque est asymétrique. On a 2,5, on ne voit pas 3,5. On peut avoir des mois à 1-1,5. Et ces mois-là, même si on pense qu'on ne retombera pas en récession, le marché va peut-être s'amuser un peu à se faire peur. Donc on peut avoir déjà le prochain trimestre à 1, le marché se fera peur, mais je ne crois pas face à la force à la fois de la consommation et de l'investissement résidentiel, qui reste très fort, qu'on retombera en récession. Mais on peut se faire peur. Heureusement, oui.
Pour les investisseurs, au cours des derniers mois, on était très souvent en faveur notamment des actions européennes, oui, en mettant en avant ce côté alignement des planètes. Alors, on n'en entend plus tellement parler aujourd'hui, mais disant qu'il y avait un début de croissance. Début de croissance amélioré. Et puis, il y avait cette baisse de l'euro face au dollar, il y avait le pétrole, donc on avait tous ces éléments. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore favoriser cette zone?
Oui. C'est encore le cas, je crois, mais ce qu'il y a, c'est que il y a un scénario médian neutre où il n'y a pas telle bonne surprise. C'est-à-dire que, par exemple, l'année dernière, on disait le gouvernement prévoyait 1% de croissance. On pouvait avoir mieux. Cette année, c'est 1,6. Donc, je crois que c'est tout à fait crédible, mais il n'y aura pas vraiment mieux. Et ce 1,6 de croissance peut faire 7-8% de hausse de résultats. Ça paraît crédible. Par contre, on voit bien que des signes noirs, on n'en a pas du côté positif, mais du côté négatif, on peut en avoir beaucoup, quoi. Voilà. Donc, je crois que c'est encore le marché européen et le marché japonais sur lequel on est vraiment positionné, qui nous semble les marchés les plus intéressants, et le marché américain, lui, qui nous semble plus dangereux et fragile. À la limite, les marchés émergents, il peut y avoir un contre-pied, les gens sont absents, etc. Le marché américain, on voit vraiment les marges sont à des niveaux records, les PER sont élevés. Puis surtout, techniquement, il y a une faiblesse du nombre de titres qui participent à la hausse, quoi. Le marché avait tenu encore. Le marché avait fait zéro avec 5-10 titres qui faisaient la hausse sur le SP500. Si ça se retourne, voilà, on voit vraiment une zone de faiblesse qui n'est pas sur le marché européen. Oui, tout à fait.
Donc, ça, effectivement, on suivra ce marché-là, puisque c'est vraiment là où on peut concentrer les investissements.
Oui, je crois tout à fait.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Jean-Jacques Friedman.
Merci beaucoup.